Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. 9h40 sur France Inter, démarrage en trombe de l'instant M.
C'est énorme ce qui s'est passé les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Des cocotiers, des larmes et des poteaux, c'est reparti pour une nouvelle saison de Koh-Lanta sur TF1. À ceci près que ce ne sont pas des candidats lambda, mais des héros qui combattent là. Hier, j'ai demandé à Stéphane Guillon ce qu'était désormais un infréquentable à la télévision. Eh bien, aujourd'hui, je demande à Denis Brognard ce qu'est un héros au sens médiatique du terme. Koh-Lanta, photographie assez intéressante de notre société libérale, où à la fin, il n'en restera qu'un, donne d'ailleurs une définition assez subtile et complexe, plus intéressante qu'on l'imagine, du héros justement.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Denis Brognard.
Bonjour Sonia.
Alors, le combat des héros, tous les vendredis soirs sur TF1, c'est donc à partir de demain et c'est en première partie de soirée. J'en profite pour saluer ici notre ami Marc Fauvel, le journal de 8h. Il est souffrant en ce moment, il est à la maison, il est cloué. Et je sais qu'il ne rate jamais une édition de Koh-Lanta.
C'est vrai, il me le dit à chaque fois, voilà. Et je suis très fier de le compter parmi les téléspectateurs assidus.
Ça devrait le requinquer. Salut à toi Marc. Bonjour ma chère Iris.
Bonjour Sonia.
Iris Bray est parmi nous, l'œil sur les médias américains et sur la question du genre si aigu en ce moment. On se disait, tiens, questionner la représentation médiatique de la masculinité face à Brognard, c'est peut-être pas mal. Allez, un petit mot d'actu d'abord. Il a réalisé deux documentaires sur le futur président. L'un intitulé « Macron, en marche vers l'Élysée » pour France 2, après l'élection. L'autre intitulé « Dans la tête d'Emmanuel Macron ».
Dans la tête d'Emmanuel Macron, il y a d'abord une ambition. Un cheminement qui vient éclairer toute son action. Il est libéral, mais il veut un État présent. Il est de la génération de l'instant, mais il va célébrer Jeanne d'Arc. On le croit technocrate, et il est plus politique qu'il n'y paraît. Il y a sans doute plusieurs Emmanuel Macron.
C'était pendant la campagne et c'était diffusé sur la chaîne parlementaire Assemblée Nationale. Hier, il a raflé la présidence de cette même chaîne. Il, c'est Bertrand Delay, essayiste, documentariste, ancienne voix de France Culture, un type brillant, mais dont la proximité avec Macron attise les soupçons. Alexis Corbière de la France Insoumise, d'ailleurs, réagissait hier. Je ne veux pas que LCP devienne la chaîne présidentielle, la courroie de transmission avec l'Élysée. Alors, le 8 juin prochain, Delay prendra la place de Marie-Ève Malouine, et ce, dans une ambiance très tendue. L'accusation d'agression sexuelle à l'encontre de l'animateur Frédéric Aziza a laissé une rédaction très divisée et la chaîne devra se confronter à un éventuel rapprochement avec celle du Sénat. Pas simple. Alors, Iris, cette semaine, vous avez dévoré l'émission de relooking. Qu'est-ce que c'est que le relooking? Bah, tout simplement, on se relook, quoi. On se rhabille, on change de genre, on change de tête, on change de fringue, tout ça. C'est sur Netflix et ça s'appelle Queer Eye. Le principe... Oh, pardon, pardonnez-moi, c'est le mélange entre l'anglais et le français, c'est pas trop mon truc. Alors, Queer Eye, le principe, c'est 5 hommes gays qui débarquent dans la vie d'un type en petite forme et qui l'aident à changer de vie.
The original show was fighting for tolerance. Our fight is for acceptance.
We all got to come together in a way where we can understand each other.
Guys, where are we going?
Georgia.
Let's do it.
Yeah.
La tolérance, l'acceptation, arriver à se comprendre les uns les autres, une formule déjà diffusée en 2003, y compris en France, c'était sur TF1, Denis Brognard, ça s'appelait 5 experts dans le vent, ça s'appelait déjà Queer. Qu'est-ce qui a changé en 15 ans, Iris?
Le titre de l'émission, parce que la première émission s'appelait Queer Eye for a Straight Guy, un regard queer pour un homme hétéro, puisque la brigade relooking n'allait voir que des hommes hétéros et jouait sur une soi-disant opposition entre homo et hétéro. La version raccourci du titre, juste Queer Eye, dit quelque chose de beaucoup plus contemporain. Désormais, le Club des 5 rend visite à 8 hommes qui osent jouer de leur féminité et se montrent aussi très vulnérables en revenant sur la perte d'un parent, sur leur prise de poids ou sur une sexualité parfois mal assumée. Des exemples qui illustrent à quel point il est difficile de s'assumer en tant qu'homme.
Voilà, tout autant qu'en tant que femme. Et c'est important de le rappeler. Ce que l'émission dit de manière implicite, en fait, c'est que lorsque les coachs apprennent à d'autres hommes à se sentir bien dans leur masculinité, c'est qu'on ne naît pas homme, on le devient.
Oui, et justement c'est ça, la pensée queer, c'est ne plus réfléchir au genre en termes binaires et c'est aussi analyser comment le féminin et le masculin se construisent. Une autre émission de télé-réalité américaine incarne cette mouvance, ça s'appelle RuPaul's Drag Race.
Attention all queens.
Casting for season 11 of RuPaul's Drag Race is open, officially.
Alors c'est une émission totalement aussi addictive qu'on peut voir sur Netflix et c'est un concours de la meilleure drag queen où des hommes deviennent des femmes le temps d'une performance.
Voilà, alors pourquoi est-ce que Queer Eye cartonne ainsi ?
Parce que la culture de la virilité s'est transformée en quelques mois aux États-Unis. La première version de Queer Eye a été lancée sous George Bush, hein, où le président incarnait encore ce modèle de la masculinité cow-boy. Aujourd'hui, avec un président qui se vante d'attraper les femmes par la chatte, la notion de virilité doit absolument se réinventer. Les Américains cherchent un autre modèle que la masculinité toxique de la toute-puissance, qui d'ailleurs a été dénoncée par les mouvements MeToo et Time's Up. Cette semaine, la couverture du New York Magazine pose la question, how to raise a boy, comment élever son fils lorsque les modèles du patriarcat semblent s'écrouler les uns après les autres.
C'est passionnant hein, cette couverture du New York Magazine. Comment élever son fils aujourd'hui, je trouve ça passionnant.
Et Iris. Justement, bah oui, si on peut plus prendre comme exemple nos acteurs, nos politiciens, nos entraîneurs sportifs, alors que reste-t-il ? Eh bien la télévision et les coachs de Queer Eye qui à eux cinq inventent un nouveau paradigme de la masculinité, ce que j'appellerais une masculinité bienveillante dont on a terriblement besoin aujourd'hui.
Vous savez, moi je crois que si ça peut accentuer la tolérance, eh ben c'est un pari gagné.
Je pense que c'est archi le but et je trouve ça intéressant parce qu'on s'est posé beaucoup de questions sur Koh-Lanta, y compris dans cette émission ici, dans l'instant même. La question du masculin et du féminin, en fait, elle est intéressante parce que cette émission, elle date d'il y a déjà 20 ans. On ne la questionnait pas comme ça à l'époque.
Mais les ça n'a pas beaucoup évolué finalement en 20 ans.
C'est pour ça que le modèle d'origine est intéressant.
Il y a une parité au départ, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes. Et ce qui est génial dans une émission comme Koh-Lanta, c'est que il est impossible de savoir si c'est un homme ou une femme qui va gagner. Il est impossible de savoir au départ si c'est un homme qui va permettre à son équipe de prendre l'avantage ou une femme en fonction des épreuves. Parce que quand c'est une épreuve de force, évidemment, les hommes ont un petit peu l'avantage. Mais lorsqu'il y a de l'équilibre dans une épreuve de force, alors les femmes prennent souvent l'ascendant.
Et d'ailleurs, vous avez un profil type de femmes qui vont généralement très très loin dans la compétition, qui sont des femmes jeunes, en général assez diplômées, assez éduquées, très intelligentes,
stratèges. On a aussi des femmes pas si jeunes que ça,
et
regardez.
Très, comment dire, très résistantes,
affûtées. Marguerite, l'année dernière, elle était finaliste et elle avait 50 ans passés. C'était important. Je crois que c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement cet assemblage, ce savant dosage entre les hommes et les femmes. Il y a aussi ce savant dosage entre les générations. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont 18 ans, mais vous avez des gens qui ont plus de 50 ans et tous sont capables dans Koh-Lanta. C'est ça aussi peut-être qui fait
une partie du succès. Parce que chacun arrive avec ses armes.
Armes et on peut à 50 ans passés aller au bout comme à 18 ans.
Et dans les vainqueurs, vous seriez ventilé le nombre de femmes, le nombre d'hommes, c'est à peu près pareil.
Alors,
globalement
j'ai pas comme ça une statistique, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont gagné, des femmes de tous les âges, de toutes les origines. Même chose pour les hommes. La dernière fois, en finale, vous aviez un homme contre une femme, c'était deux jeunes à l'époque. Mais voyez, André qui a gagné, je vous garantis que quand vous le voyez sur la première émission, il est plutôt bien portant, c'est un rugbyman, mais c'est pas un type super sportif. Vous vous dites pas, ce type-là, il a le potentiel de gagner Koh-Lanta. Et pourtant, à l'arrivée, c'est lui qui l'emporte.
De toute façon, vous, au bout de 20 ans, vous n'êtes jamais capable, en début de saison, de dire qui va arriver à la fin.
On se trompe toujours. Et vous savez, il y avait des influenceurs à qui on a montré les 40 premières minutes de la première émission il y a 3 jours à TF1. Ce sont des gens qui aiment Koh-Lanta, qui sont passionnés. À la fin, je leur ai dit, vous les connaissez tous, là. À votre avis, déjà, ne serait-ce qui va être éliminé sur le premier conseil. Eh bien, je peux vous dire que j'ai eu toutes les réponses. Sauf la bonne. Donc c'est vous dire, si on est encore loin, d'imaginer qui peut remporter Koh-Lanta après 14 émissions.
Allez, les larmes et les poteaux, c'est Denis Brunet.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Le combat des héros commence demain soir sur TF1. On explique pour ceux qui ne sont pas habitués à l'émission. Ce sont des anciens, mais ce ne sont pas tous des vainqueurs. C'est ça qui m'intéresse. Au contraire, le combat des héros, c'est comment dire, la saison des revanchards. Écoutez Yacine.
J'ai vécu ma sortie de Koh-Lanta comme une injustice. J'ai été éliminé donc aux ambassadeurs, au pied de la réunification, au moment le pire, parce que pour moi l'aventure allait démarrer en fait. Je suis une machine de guerre. Là aujourd'hui on va voir le Yacine 3.0 et apparaître, et là ça va faire très très mal.
Vous n'auriez que des vainqueurs avec vous, Denis Brognard. Finalement, le scénario serait tout autre et peut-être moins intéressant.
On l'a déjà fait. On a déjà pris d'anciens vainqueurs en leur disant, est-ce que vous êtes capable de gagner une deuxième fois ? Là, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de prendre des gens qui ont le potentiel de gagner, mais qui ne l'ont pas fait la première fois. Vous évoquez Yacine, là, on l'entend très bien, il a été éliminé aux ambassadeurs, c'est-à-dire par deux ambassadeurs qui ont pris la décision arbitraire de le sortir du jeu, sans qu'il ne puisse se défendre. Donc il en ressent encore aujourd'hui une vraie frustration.
Et je rappelle pour tous nos auditeurs que le public ne vote pas dans Koh-Lanta, on s'élimine entre soi. Hein.
Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention des téléspectateurs, mais je prends un autre exemple, Dylan. Il est foutu pour gagner Koh-Lanta avec ses mocassins.
Non mais Dylan. Je savais, Sonia.
Voilà notre beau luxembourgeois. Sauf que il avait rien compris à la gestion humaine. Il s'est pas intégré dans son équipe. Au bout de trois jours, il est sorti. N'empêche qu'il a un potentiel pour aller loin.
Je vous repasse la présentation de Dylan lors de la saison précédente.
Je sais que c'est l'un de vos favoris.
Elle est délicieuse.
Pour vendre une maison, il faut être stratégique, malin, un peu manipulateur. J'y serai aussi dans Koh-Lanta. Bah, vite. Tous les jours, on n'a rien sans rien. Pour gagner Koh-Lanta, je suis prêt à tout. Si je dois arnaquer un tel ou un tel, je le ferai. Parce que je ne vais pas sur Koh-Lanta pour me faire des amis. Je vais là pour gagner, tout simplement. Je fais mon travail, je repars, comme d'hab.
Voilà, la dernière fois que vous étiez venu, on avait dit, il en faut toujours un, il faut le petit con, urticant, agaçant, à qui on a bien envie.
C'est un gamin, quand on connaît son histoire, qui a une éducation compliquée, qui s'occupe aujourd'hui avec beaucoup de maturité, ce qui est complètement paradoxal par rapport à ce qu'on a entendu de ses petits frères et de ses petites sœurs. Il revient dans Koh-Lanta, c'est plus le même bonhomme. Je pense qu'il a pris du plomb dans la tête en comprenant ce qui s'était passé après son élimination, après
seulement 3 jours. C'est une vraie question. Pourquoi ils reviennent ? Je prends Clémentine, par exemple, qui est très forte. Hein. Elle a été détestée par les téléspectateurs ou par une partie de la communauté.
Elle a été détestée sur les réseaux sociaux, surtout par certaines personnes qui ont manqué d'une violence inouïe, d'ailleurs. Moi, je suis monté au créneau pour la défendre, parce que Clémentine, on parlait tout à l'heure des États-Unis. Sur le Survivor, c'est-à-dire le Koh-Lanta américain, si vous mettez Clémentine, c'est une héroïne. Parce qu'elle est un peu stratège, elle est super sportive, elle veut gagner et elle a une mentalité de battante. Aux États-Unis, ça fait une héroïne. En France,
ça fait un bouc émissaire.
Ça fait un bouc émissaire avec une violence sur les réseaux sociaux, je le redis. Et moi, j'ai été très favorable. Quand on en a parlé avec Alexis Alaro-Joubert, avec les gens de TF1, on s'est dit, est-ce que Clémentine, on lui propose de revenir ? Il y a des gens, globalement, on était plutôt favorable, mais moi, j'étais très favorable à ça parce que cette femme, elle a tout pour réussir dans Koh-Lanta. Elle est d'ailleurs passée tout près puisqu'elle était sur les poteaux de sa première saison. Elle n'a pas gagné.
Elle a hésité.
Mais je ne crois pas qu'elle ait hésité. Moi, je l'ai eu au téléphone. On en a beaucoup parlé. Et c'est une femme, c'est une battante. Elle entraîne des enfants.
Moi, j'ai lu, Denis Brogniart, qu'un quart des candidats quand même souhaitent revenir. Donc, vous les sélectionnez. C'est pas vous qui avez...
Il y a 98% des candidats.
Donc, ils veulent recommencer ?
Mais bien sûr.
Ah bon, ça, j'avais pas compris.
Ah si, ils veulent tous revenir.
Est-ce que le risque...
C'est pour nous un casse-tête de dire aux gens, non, vous n'en serez pas cette fois-ci. Non, c'est quasiment tous veulent revenir.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque dans Koh-Lanta que ça devienne, justement, avec ce nouveau type de recyclage, finalement quelque chose qui ressemblerait à n'importe quel programme de la télé-réalité ? Vous voyez, des candidats qui se professionnalisent, qui deviennent des personnages de télé à part entière. Je vous fais écouter Frédéric, que vous connaissez bien, parce que Frédéric, c'est une ancienne de Koh-Lanta. Aujourd'hui, elle fait partie de ceux qui se sont recyclés dans la télé-réalité. Elle est devenue un pilier des anges de la télé-réalité.
Vous ferez le ménage le matin. Voilà, et j'aiderai plus personne maintenant. Ah, ils se croient malins, bande de petits là. Petits.
Une partie des garçons étaient réunis dans la cuisine et j'ai soupçonné les garçons de suite, quoi. Ils n'ont pas pu s'empêcher de rentrer dans ma chambre.
Voilà, Frédéric, dans un tout autre registre.
C'est intéressant, Sonia. Oui. Je pense que Frédéric, elle est beaucoup plus faite pour les anges de la télé-réalité que pour Koh-Lanta. D'ailleurs, sur Koh-Lanta, elle est partie extrêmement vite. Elle n'a jamais ni trouvé sa place, ni trouvé un rôle intéressant. Mais vous savez...
Mais Dylan, est-ce que c'est pas un pur personnage de télévision ?
Pas du tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un type. Franchement, Sonia, si vous ou moi, on a la même éducation... Je pense qu'on est pire que Dylan au même âge. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut voir aussi qui sont les gens. Et Dylan, vous allez le voir, ce qui est génial, c'est qu'il a été pris sous sa coupe par Yacine. Yacine, il est chef d'entreprise, il est père de famille, il a une vie parfaitement
rodée,
qu'on a entendu. Ouais. Il habite Bordeaux, Dylan, il habite le Luxembourg. Et bien, ces deux-là, ils se sont trouvés. Et je peux vous dire que Yacine...
Donc, vous n'êtes pas en train de fabriquer des personnages de télé.
Mais je serais très, très embêté de vous dire que Dylan deviendra un personnage de télé. Est-ce que il est mannequin, il a été militaire, enfin il a fait des tas de choses encore déjà agent immobilier. Si ce type-là veut se servir de cette lumière de Koh-Lanta pour on verra. Acquérir une forme de notoriété. Après, c'est pas la télé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est
alors,
revenu
Denis
dans Koh-Lanta.
Denis, question importante. Alors, une question de Caroline Rousseau, qui a longtemps travaillé avec nous, ouais. qui est partie vivre en Nouvelle-Calédonie, et qui nous a écrit cette nuit, pourriez-vous demander à Denis Brognard sur quelle île exactement ça a été tourné dans l'archipel des Yasawa?
Ben oui.
J'entame un pèlerinage des lieux de tournage de Koh-Lanta. Vos fans sont complètement dingues.
Ben alors, on va lui dire que c'est pas loin de la Nouvelle-Calédonie,
oui,
hein, puisqu'en quelques heures,
qu'elle
en 3 heures de vol, elle arrive à Nadi, l'aéroport international des Fidji. Ensuite, il lui faut 2 heures d'avion pour aller sur, justement, cette île de Yasawa.
Alors, je reviens sur cette photo de baleine échouée. Aux îles Fidji, que vous avez tweeté.
Des globicéphales, pour être précis.
Merci. On s'est demandé si ça n'était pas là que devait aller Koh-Lanta. Finalement, puisqu'il faut toujours réfléchir à comment ça évolue, un jeu d'aventure qui existe depuis 20 ans, intégrer un peu plus les cultures locales, les enjeux écologiques de ces lieux magnifiques.
On le fait, on intègre dans nos récompenses. Et je peux vous dire encore plus aux Fidji, c'est un pays qu'on a découvert avec des gens exceptionnels. Ils vivent là-bas, sur l'île de Yasawa, comme vivaient nos arrière-grands-parents au milieu du 19e siècle. Alors vous faites allusion à une photo que j'ai prise pendant un footing et j'arrive dans ce village qui est un village exceptionnel, moi où je me suis totalement intégré et effectivement sur cette plage je vois ces 5 petites baleines qui se sont échouées parce que le dérèglement climatique, parce que il y a des courants d'eau chaude à cet endroit-là qui les perturbent totalement au niveau de l'orientation.
Mais finalement Koh-Lanta ça pourrait devenir un nouveau genre d'Ushuaïa ou de Thalassa.
Mais on essaye en tout cas, vous savez, on essaye aussi, on nettoie beaucoup les endroits où on va, essaye de sensibiliser là-dessus.
Ces baleines,
moi j'ai été surpris de voir ces gamins et je me suis dit au moins ils vont les manger, mais même pas. C'est-à-dire que, vous savez ce qu'ils en font? La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils font de la poudre avec les ailerons donc de ces baleines. Ils ne les tuent pas, encore une fois, elles sont mortes en arrivant sur la plage, parce que cette poudre, c'est une poudre réputée aphrodisiaque que l'on donne lors des mariages un peu comme une dot.
Denis Brognard, dans quel état vous laissez justement ces lieux de tournage? Parce que c'est une armada qu'on ne voit pas à l'écran, mais c'est une armada.
Je peux vous garantir que nous avons des équipes de régisseurs qui ramassent des tonnes et des tonnes de saloperies sur les plages sur lesquelles nous travaillons. Et je vous donne un exemple.
Qui ne sont pas produites par vous?
Bien sûr que Bien sûr que non. Elles arrivent de la mer. Et il y en a peut-être moins dans ces endroits-là parce que ce ne sont pas des zones de navigation très fréquentées. On est vraiment au bout du bout du monde. On est en plein milieu du Pacifique et il n'y a pas franchement des couloirs maritimes.
Mais parce que vous arrivez, il faut loger toute l'équipe, vous installer du matériel,
découper les etc. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un mégot par terre, il n'y a pas une bouteille qui reste, parce qu'on est extrêmement sévère par rapport à tout ça, et puis qu'on a une équipe, des gens qui sont là, vous le disiez, ça fait quasiment 20 ans que Koh-Lanta existe, il y a des gens qui sont avec nous quasiment depuis 20 ans, et il y a une vraie sensibilisation par rapport à ça. On arrive sur des territoires qui sont parfois vierges, et on les laisse vierges, parfois
alors vous les
bien
vierges.
Plus propres qu'ils n'étaient, et puis surtout, on les aide, au Fidji où on est par exemple là, mais on a construit des routes. On a construit des routes, des chemins de terre qui leur permettent maintenant d'accéder du village du nord au village du sud. Avant, il fallait prendre un bateau, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, je peux vous garantir, enfin, c'est compliqué de le dire comme ça et que vous puissiez me croire sur parole, mais en tout cas, on essaye au maximum d'aider ces gens-là. On essaye d'aider les gamins dans les écoles.
Et quand quand vous vous installez sur une île, ensuite le décor sert aux autres productions internationales.
Alors,
de Koh-Lanta
ça dépend, mais
de
plus en plus. Vous savez que Banijay, la maison mère d'Adventure Line Productions, a racheté le concept mondial Survivor. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le but, c'est un peu de mutualiser nos espaces de tournage. C'est-à-dire un lieu qui a été trouvé par les Suédois, eh bien, on va peut-être nous l'utiliser avec les Suédois, avec les Polonais, avec d'autres pays. Et puis, à l'inverse, notre lieu des Fidji que nous avons découvert, eh bien, il a servi d'abord aux Polonais, ensuite aux Suédois. Mutualiser, c'est aussi le business d'une entreprise de production de télévision.
Merci beaucoup, Denis Brognard.
Merci, Sonia.
Demain soir, les héros commencent à combattre. C'est tous les vendredis, c'est sur TF1. Salut, Ali Rebéi.
Bonjour, Sonia Deville. Ça me fait plaisir de voir mon ancien prof de journalisme sportif.
Mais c'est vrai.
PJ, voilà. Il était très bon, d'ailleurs, avec Hervé Matou. Bon, bref, c'est une autre histoire.
Merci beaucoup.
Manger bio, est-ce toujours un bon choix? Appelez-nous au 01 45 24 7000. Non, si, je suis un peu fatigué.
Surtout qu'il veut pas faire Koh-Lanta. Mais Sonia, vous seriez une bonne aventurière de Koh-Lanta.
Mais
c'est non,
Warrior.
Je sais pas me servir d'une boussole.
Si, mais non, mais la boussole, c'est vers la fin. Mais je pense qu'elle a la niaque.
Mais je pense que
sinon, on est en retard et après, on gâche l'émission.
Non, mais vous le dites chaque jour, ça, vous êtes en retard.